BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Nous sommes le vendredi 25 novembre et on vous accueille pour BFM Patrimoine, vos deux heures quotidiennes d'expertise du monde de votre argent. Direction tout de suite la Bourse de Paris pour y retrouver Antoine Larigauderie. Bonjour Antoine, avec un CAC 40 hésitant une fois encore. En fait, j'ai l'impression que quasiment toute la semaine, on se sera retrouvé à 10h en disant qu'on hésitait.
Oui, c'est exactement ça. On a répété les mêmes débuts de séance à peu près. La seule exception, tiens, mais c'était hier où vraiment il se passait rien en ouverture et où on a eu une brusque petite poussée haussière là entre 10 et 11. Et vos analystes l'ont détecté. Bon, c'est sans doute des algorithmes. Hein, c'est pas plus compliqué que ça parce que fondamentalement il n'y a pas trop de raison de bouger sur les marchés, de prendre des directions vraiment franches dans le sens où on est dans une ambiance de Thanksgiving. Il n'y avait pas de séance à Wall Street hier soir. Il n'y aura qu'une demi-séance aujourd'hui. Donc des volumes sans doute très réduits. Et puis un CAC 40 qui a passé quelques résistances techniques intéressantes, mais qui a du mal à avancer. C'est vrai qu'accrocher les 6700 points, c'était quand même intéressant et ça nous ramène sur des plus hauts qui datent de mars dernier. Mais trouver l'énergie pour aller plus haut, pour ça, il faudrait des catalyseurs, il faudrait de la macroéconomie, il faudrait que ça s'active un petit peu plus du côté des intentions et des opinions d'analystes. Et pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc du coup, on fait un peu de surplace. 6701 points pour un CAC 40 qui est en repli très très modéré, hein, -0,09%, -0,1% pour l'Eurostox 50 et le DAX à Francfort, -0,17%. Alors qu'est-ce qui grimpe ce matin? On a l'air de vouloir se recentrer sur les valeurs un peu défensives. Danone +0,5%, on est à 50,72%, on a Orange +0,46% à 9,97%, tiens, on frôle les 10 euros. Essilor Lusotica +0,52%, on est à 175,65€. Les plus fortes hausses du CAC 40 à noter parmi les valeur de l'indice large SBF 120. On a OVH hein, qui est leader avec 4,5% de hausse, 14,93€, avec une nouvelle ligne de crédit importante qui est saluée par les marchés. On a également Ipsos qui prend 2% à 54,60. On a Casino +1,35 à 11,29. À la baisse, on retrouve Unibail, Rodamco, Westfield. Quelques prises de profit. Le titre a pas mal profité de la séance d'hier. Et là, ce matin, il perd 1,46% à 52,57. On a Eurofin Scientifique -14 à 67,82. Et Engie -1% à 14,30. La plus forte baisse du SBF 120. Mais c'est un habitué des hauts et des bas de tableau. Une valeur à fort delta, c'est McPhy Energy qui recule de 2,7% à 12,60. L'euro dollar, lui, il se fortifie au-delà d'1,04. On est à 1,0427. Du côté des taux d'intérêt, on s'est un petit peu redressé. On a eu une correction assez violente ces derniers jours. 2,33 pour la dette française, 10 ans, 1,89 pour la dette allemande. Le CAC 40, lui, recule de 0,09%, 6701 points, Cédric.
Antoine Larigauderie, on vous retrouve tout à l'heure, Antoine. Vous suivez la séance et on se donne rendez-vous à 11h pour en prendre le pouls. Et nous, d'ici là, eh bien, on retrouve Thomas Schnell pour l'Info Éco.
BFM Business, l'Info Éco.
Bonjour Cédric, bonjour à tous. C'est une première en Europe. La Banque Européenne d'Investissement accorde un prêt dans le cloud souverain. Un prêt de 200 millions d'euros à OVH. Le directeur général Michel Paulin était sur BFM Business ce matin. Il défend cette stratégie européenne pour faire face aux puissances américaines et chinoises.
Nous, la souveraineté, c'est la liberté de choix. C'est la capacité qu'aura l'Europe de construire des infrastructures qui lui permettront de ne pas être complètement dépendant de technologies d'autres. Et on sait qu'aujourd'hui, dans l'enjeu géopolitique qu'il y a, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu économique, mais ça devient aussi un enjeu géopolitique. Et donc nous, ce qu'on souhaite avec OVH Cloud, c'est être capable de fédérer un écosystème, donc on n'est pas seul, d'acteurs qui proposeront des solutions alternatives qui seront conformes aux droits européens et qui permettront à l'Europe... Mais je veux dire aussi, il y a d'autres plaques, hein. On est très intéressés au Canada, en Asie, d'offrir des solutions qui leur permettent d'avoir le choix et qui leur permettent d'avoir la conformité au droit local.
Très salué par le marché parisien, puisque ce matin, OVH signe la plus forte hausse du SBF 120. Lufthansa reste dans la course du rachat d'Ita Airways, la nouvelle Alitalia, malgré le forfait de son partenaire MSC. Selon le quotidien Corriere della Sera, Rome serait en train d'étudier une nouvelle offre de la compagnie allemande. allemande, associée cette fois au chemin de fer italien. Air France KLM et ses partenaires sont quant à eux toujours candidats. La production d'iPhone pourrait chuter d'au moins 30% en novembre après les perturbations chez le géant Foxconn. Le principal sous-traitant d'Apple s'excuse après les protestations dans son usine chinoise. Les manifestations qui ont éclaté cette semaine contre la politique zéro Covid ont considérablement réduit la cadence juste avant la période cruciale des fêtes de fin d'année. Opération réconciliation à Berlin aujourd'hui. Elisabeth Borne sera reçue cet après-midi par Olaf Scholz. Les deux puissances du continent pourraient bien trouver un terrain d'entente sur la lutte contre l'Inflation Reduction Act. Paris et Berlin voient déjà la menace américaine prendre forme avec des projets d'implantation d'usines reportés. Et d'ailleurs, la croissance allemande au troisième trimestre est révisée à la hausse. Plus 0,4% selon l'Institut d'Estatis au lieu des 0,3% anticipés sur un an. Le PIB allemand croît de 1,3%, ce malgré la crise énergétique et l'inflation. À Bruxelles, les Européens restent divisés sur le plafonnement des prix du gaz. Pas d'accord à l'issue de la réunion des ministres de l'énergie des 27. Alors que les prix flambent, toujours, la Commission européenne qui a fait ses propositions a donc reçu une fin de non-recevoir et doit maintenant revoir sa copie. En France, le risque de coupure d'électricité ciblée en début d'année prochaine n'est pas à exclure, mais l'hiver le plus à risque sera probablement le prochain, fin 2023. C'est en tout cas ce qu'a estimé hier soir la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, Emmanuel Wargon, sur BFM Business. Pour la première fois, Emmanuel Macron, lui, est directement visé par une enquête judiciaire. Le parquet national financier ouvre deux informations judiciaires portant notamment sur les interventions du cabinet McKinsey durant les campagnes électorales de 2017 et de 2022. La justice cherche à faire la lumière sur l'implication et sur l'influence de ce cabinet auprès d'Emmanuel Macron alors qu'il s'est vu attribuer ces dernières années certains contrats publics aux montants colossaux. Et puis, des mouvements sur les salaires. Un accord a été trouvé hier chez Enedis pour des hausses de 4,6%. Appel à la grève aujourd'hui chez Worldline, le leader mondial des transactions en ligne. Les syndicats s'indignent d'une proposition de hausse de salaire de 0,58%. La date n'est pas choisie au hasard puisqu'on est aujourd'hui le Black Friday, la fête du commerce en ligne. 10h06 sur BFM Business, BFM Patrimoine avec Cédric Decoeur. C'est parti.
On se retrouve.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et on retrouve Thomas Schnell, bien sûr, dans une heure pour continuer à suivre les actualités économiques. Tout de suite, direction GSD Gestion pour y retrouver Thierry Gauthier. Bonjour Thierry.
Bonjour Cédric.
Vous nous accompagnez dans le monde des petites et moyennes capitalisations et on parle ce matin de TF1. Pourquoi votre choix ?
Oui, TF1 qui est une société qui en bourse est une belle endormie, on a envie de dire. Alors en fait, ce sont le parcours boursier récent et les niveaux de valorisation qui nous amènent à être acheteurs du titre sur ces niveaux-là de 7 euros, autour de 7 euros TF1 cote actuellement. Alors depuis le début de l'année, Cédric, le titre réalise une performance de moins 20% et vaut environ la moitié de ce qu'il valait pré-Covid. Alors, sur l'année, il y a de bonnes raisons hein, à cette contre-performance absolue, notamment l'échec de l'opération de fusion avec M6, hein, qui a été annoncé à la rentrée de septembre, et le départ de l'ancien président, M. Pélisson, qui s'en est suivi, remplacé par Rodolphe Belmer, ou plus récemment encore, le profit warning de ProSieben en Allemagne, hein, qui est incomparable et qui était vraiment de mauvais augure pour TF1, mais voilà, dont les chiffres, eux, tiennent très bien. Alors, si on regarde bien ces chiffres, en fait, le chiffre d'affaires de TF1 est passé de 2,3 milliards dans les années pré-Covid à 2,5 milliards attendus pour cette année. On est donc sur une croissance de 9% du chiffre d'affaires de la société. Et si on regarde du côté des profits, la progression est même encore plus importante, puisque ces profits sont passés pré-Covid autour de 150 millions à 200 millions d'euros attendus. Tout cela fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un titre TF1 qui est valorisé seulement 6 fois ses profits, qui donne 7-8% de rendement et qui dégage des cash flows qui représentent 20% de sa capitalisation. On a envie de dire que demander de plus, hein. Il y a aucune raison que le titre TF1 reste là. Alors voilà, par contre, pour réveiller une belle endormie en bourse, bah, il faut souvent des nouvelles hein, qui agissent comme un catalyseur et qui font prendre conscience au marché de l'opportunité. Et ce catalyseur, bah, écoutez, on a envie, en tout cas, ça pourrait peut-être être la Coupe du Monde. Alors on connaîtra l'impact du boycott qui a été appelé là, par certains qu'en fin de Coupe du Monde, hein, parce que les systèmes de mesure, les horaires des matchs, sont vraiment différents par rapport aux précédentes compétitions. Mais on a déjà quand même pas mal de signes positifs. Hein. Si on regarde du côté des audiences, on a eu un match d'ouverture France-Australie qui a rassemblé plus de 12,5 millions de téléspectateurs. C'est pareil qu'en 2018, donc on ne constate pas de baisse. On a eu des matchs d'ouverture, voilà, le Qatar-Équateur qui a rassemblé plus de 5 millions de téléspectateurs. C'était 4 millions, le Russie-Arabie Saoudite de 2018. Le Brésil-Serbie d'hier soir, c'était 6 millions de téléspectateurs. Donc tout ça fait que les 30 secondes, le spot publicitaire hein, sur TF1 atteint des niveaux très très satisfaisants. Et il pourrait même atteindre, selon les analystes d'Avas, des records, battre des records du France-Croatie de 2018. Si la France arrivait en finale cette année, qui pourrait voilà les 30 secondes de publicité qui pourraient se vendre plus de 300 000 euros cette année. Donc voilà, alors de là à dire que TF1 et l'équipe de France ont des destins liés, il y a qu'un pas, mais c'est un pas qu'on ne franchira pas, tant TF1 c'est également bien d'autres choses, avec notamment la production de contenu hein, de sa filiale Newen, qui a été acquise en 2015 et qui performe très très bien également. Donc voilà, toutes ces raisons, les niveaux de valorisation principalement, nous font être acheteurs sur le titre, et on espère que le catalyseur viendra de l'équipe de France et des buts marqués par notre équipe française.
Donc achat avec un objectif de cours.
Alors, l'objectif de cours, il pourrait être assez rapidement, nous on pense, autour de 9 euros, qui est un objectif un peu voilà technique en même temps. Mais en termes de valorisation, si on retrouvait un cours même autour de ou au-dessus de 10 euros, ce serait pas non plus très très cher payé. Hein. On le voit quand il y a eu l'opération préparée avec M6. On voit qu'en fait, les industriels entre eux sont prêts à se payer beaucoup plus cher. Donc, ça veut dire que la bourse valorise très, très mal aujourd'hui ces sociétés en bourse. Donc, voilà, des niveaux de 9-10 euros sont pour le moins très, très atteignables.
9 euros, donc, recommandation d'achat pour un titre TF1 qui est à 7,01 ce matin, en hausse de 0,29%. Merci beaucoup. Thierry Gauthier qui nous accompagnait ce vendredi depuis GSD Gestion. Le marché, lui, ben, toujours très hésitant, hein, moins 0,05% pour l'indice CAC 40.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et on file à Genève, vous nous attend en duplex depuis l'Union bancaire privée. Patrice Gautry, bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous du vendredi. Quelle lecture faites-vous des tout derniers indices de confiance publiés ce matin et qui nous permettent une prise de température de plus, et on va y revenir ensuite, de l'économie européenne? Comment est-ce que vous lisez ces indicateurs de confiance?
Oui, c'est plutôt des bonnes surprises, puisque en fait l'indicateur français est stable. Et l'indicateur allemand, qui était à des niveaux extrêmement dégradés, donc bien plus dégradés que pendant les épisodes de Covid, donc en mars 2020 par exemple, s'est légèrement, mais alors très 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 légèrement redressé. Donc en définitive, c'est moins mauvais qu'attendu, même si effectivement les préoccupations sont toujours là, l'inflation, l'inquiétude en fait sur l'évolution de l'activité, et puis se profilent aussi des questions de la part des ménages, aussi bien français qu'allemands, sur l'évolution donc à terme de l'emploi. Mais c'est une première étape, je dirais, après avoir vu les mois précédents une dégradation assez continuelle de ces indicateurs-là, avec la crainte effectivement de ce qui allait se passer pendant l'hiver. Et bien là, on revient un petit peu sur des niveaux moins dégradés. Les problèmes restent là, hein. On les a signalés, le pouvoir d'achat, l'inflation et comment va évoluer le marché de l'emploi. Mais c'est une plutôt bonne nouvelle, en définitive, d'avoir des indicateurs qui, eux, ne continuent pas à se dégrader.
Voilà donc la lecture de ces derniers chiffres du matin et effectivement cette confiance des ménages en légère hausse en novembre pour la France. Ces chiffres, ils viennent compléter une série de statistiques qui a émaillé tout le long de la semaine, d'ailleurs un peu partout dans le monde. Du coup, quelle synthèse on fait de ce panorama conjoncturel dont on a eu la disposition cette semaine ?
Oui, alors l'image est presque paradoxale, puisqu'en définitive, les bonnes surprises sont en provenance de la zone euro. On a eu, bon, on le voit avec les indicateurs de confiance un peu moins dégradés que les mois précédents. On a aussi effectivement l'indicateur IFO en Allemagne, donc la confiance des entreprises qui s'est améliorée, et des indicateurs PMI, donc à la fois pour la zone euro, qui ont en fait arrêté de se dégrader, qui ont même se sont même recomposés un petit peu. Donc on voit en fait que les craintes en fait d'un très fort ralentissement lié par exemple au risque de rationnement sur le gaz, eh bien ne se sont pas concrétisées, ce qui permet effectivement d'avoir notamment dans le secteur industriel, eh bien de revenir un petit peu sur là encore extrêmement bas donc de confiance et de recomposer un petit peu ce paysage. Et à l'inverse, on a eu des chiffres donc aux États-Unis qui étaient plutôt modérés, donc la confiance des ménages américains a continué de se baisser, les indicateurs préliminaires donc de la confiance dans l'industrie manufacturière et les services, eux, ont continué à baisser à tel point même qu'on est, pour ces mêmes indicateurs, un peu plus faible en niveau donc aux États-Unis qu'en Europe. Donc le nuage, en fait, des craintes et du ralentissement d'activité, eh bien, s'est déplacé plutôt sur les États-Unis, sur la base des indicateurs cette semaine, et, par rapport à l'Europe.
Et du coup, on peut trancher ou pas la, enfin, essayer de trancher la question de peut-on échapper à la récession, que ce soit pour l'Europe, pour l'Allemagne, pour les États-Unis. Enfin voilà, c'est finalement la substantifique moelle des politiques monétaires, cette question-là, non ?
Oui. Alors là, il y a plusieurs niveaux de réponse. Premier point, l'ensemble des milite pour une récession qui serait, je dirais, plutôt modérée, puisque en fait on a des indicateurs qui certes sont dégradés ou sont déjà fortement dégradés. Donc on avait en Europe une forte dégradation, elle est en train de venir aux États-Unis. Donc tout cela milite effectivement pour des indicateurs et une activité qui passe en dessous de zéro et qui va probablement afficher des chiffres négatifs. Donc une activité réelle qui est en phase de contraction. Est-ce que c'est une contraction extrême, très forte? Non, et c'est ce que semblent nous dire en fait à la fois les marchés obligataires d'une part, mais aussi effectivement les indicateurs. Et puis à l'appui de cela, eh bien on a la communication des banques centrales. Et les banques centrales, on a eu les minutes qui ont été publiées. Alors côté de la Fed, eh bien c'est probabilité d'une récession et de récession technique, mais avec une levée de pied sur le rythme des hausses de taux qui se profile pour la réunion du mois de décembre, 50 points de base par rapport au précédent 75 points de base, alors que, je dirais, les relatives bonnes nouvelles, et c'est un paradoxe que l'on a en Europe, eh bien, vont continuer peut-être à alimenter le débat en faveur d'une hausse de taux soutenue de la part de la Banque Centrale Européenne, puisque les minutes, comme Madame Schnabel, qui a eu une communication assez faucon donc hier, ont rappelé que la porte était ouverte sur au minimum 50 et peut-être 75 points de base, puisque on a encore ce problème d'inflation et de lutte contre l'inflation en zone euro. On n'a pas passé le pic de l'inflation.
Voilà donc poser un petit peu ces questions et l'analyse des statistiques qui ont émaillé la semaine. Maintenant, grâce à vous, chaque vendredi, on prend un coup d'avance et on lit votre agenda pour savoir un petit peu ce qu'il va falloir surveiller au cours des prochaines séances. Alors voilà, que trouve-t-on dans l'agenda de Patrice Gautry ?
Il y a deux points importants. Alors justement, on va avoir, par rapport au débat sur l'inflation en zone euro et au débat sur la Banque centrale, on va avoir le premier indice préliminaire d'inflation donc en zone euro. Il est attendu au de 10,7%, donc progression sur un an. Donc on ralentit, on commence peut-être à passer le pic, mais on est encore effectivement sur des niveaux relativement élevés. Donc ça permettra effectivement, je dirais, de déterminer entre 50 et 75 points de base quel est le scénario le plus probable. Et puis, aux États-Unis, eh bien, c'est le retour des chiffres de l'emploi. Donc, la poursuite du ralentissement, peut-être légère hausse, je dirais, du taux de chômage, autour de 3,7%. Et puis, le point important qui sera surveillé, ce sera bien entendu la progression des salaires. Celle-ci avait ralenti donc en dessous de 5% mesuré sur un an, donc dans l'estimation le mois précédent. Et donc, on va voir effectivement s'il est ou non justifié pour la Fed de lever le pied et de se préparer peut-être après encore une hausse des taux donc au premier trimestre, à une future pause. Donc là, deux chiffres importants qui auront des incidences sur la conduite future de la politique monétaire.
Merci beaucoup Patrice. Patrice Gautry, donc l'Union bancaire privée en duplex avec nous ce matin depuis Genève. Bonne fin de semaine et on se retrouve bien évidemment très vite sur l'antenne de BFM Business. Le marché parisien, lui, se montre très hésitant. Hein. -0,05, 6704 points pour le CAC.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
La vie IMO qui accueille ce matin Mathieu Darras, bonjour.
Bonjour.
Pour Brick Me Up, on rappelle brièvement, hein, vous êtes une start-up spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. On va essayer de profiter de vos lumières pour regarder un petit peu justement comment considérer ce marché immobilier. D'abord, est-ce qu'on peut peut-être poser les caractéristiques de ce que serait un bon investissement immobilier selon vous?
Oui, tout à fait. Alors, on peut prendre un certain nombre de paramètres. Il y a énormément de paramètres qui définissent un bon investissement. Mais si on en prend quelques-uns, on va avoir la zone dans laquelle on investit. Évidemment,
donc, l'emplacement.
L'emplacement. Il faut investir dans une zone où il y a un potentiel de croissance qui est clair et qui est supérieur à la moyenne du marché. Donc ça, c'est important d'aller cibler des zones. Ça peut être des zones du Grand Paris, si on est en Île-de-France, ou des zones qui ont une vraie dynamique de ville. Et par exemple, avec l'arrivée d'étudiants, etc., il faut cibler ces villes-là qui nous permettent d'avoir une vraie croissance. Après, il faut cibler des biens pour lesquels on a une possibilité de faire de la création de valeur. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de diagnostics de performance énergétique, de passoires thermiques. Et bien justement, ce sont typiquement des biens dans lesquels on peut investir aujourd'hui, parce qu'avec un peu de rénovation, on peut transformer ces biens, les repositionner sur le marché, les supprimer des passoires thermiques. Et là, on fait vraiment de la création de valeur. Et en plus, aujourd'hui, on peut bien négocier ces biens. Donc, on a vraiment un gap sur l'investissement. Après, on va investir dans des zones où on trouve des locataires. Ça, c'est important. Il faut essayer d'investir dans des zones où on a des tensions locatives, entre guillemets, parce que ça, c'est une partie intégrante et une partie très importante de la rentabilité. Et donc, il faut s'assurer que le locataire soit là, est présent et paye correctement. Et puis, le dernier point, c'est le taux d'intérêt. Aujourd'hui, effectivement, le taux d'intérêt explose, mais on reste quand même sur des taux relativement bas, inférieurs à l'inflation. Donc, ça reste quand même le bon moment pour investir, et on peut avoir des très belles rentabilités.
Ouais. La difficulté reste quand même celle d'obtenir son prêt.
La difficulté reste...
Même si les taux remontent, il reste en dessous de l'inflation, on est d'accord, mais la difficulté reste de l'obtenir.
Oui, tout à fait. Il y a une vraie baisse des obtentions de crédit.
Dans ceux qui font appel à vous, aujourd'hui, vous le sentez, ça, véritablement? Parce qu'on sait que les primo-accédants sont parfois les premiers à subir le contre-coup de cette hausse de taux et de cette question du taux d'usure. Mais on a, de la part de nos amis courtiers aussi, des dossiers de... finalement d'épargnants qu'on pourrait assez facilement qualifier de aisés, qui ont du reste à vivre même après l'opération qu'ils visent, et ça se fait retoquer pour des questions de taux d'usure. Vous avez ça, cette prise de température?
Alors oui, clairement, il y a une tension sur l'obtention des crédits. Après, on le ressent pas à notre échelle, l'échelle de Break Me Up, parce qu'on est sur un positionnement où on crée du patrimoine. Donc notre clientèle est une clientèle qui va faire plusieurs acquisitions et qui a la capacité de faire ces acquisitions. Après, on peut aussi travailler sur de l'investissement au travers de sociétés. On peut travailler également sur des investissements collectifs. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent quand même d'investir dans l'immobilier. Mais c'est
justement
vrai
aujourd'hui, quel type d'investissement il convient de réaliser?
Alors aujourd'hui, tout dépend de si vous êtes un investisseur spéculatif, entre guillemets, ou un investisseur très patrimonial. Si vous êtes un investisseur très patrimonial, vous allez chercher de la sécurité. Donc là, vous allez investir dans des villes comme Paris, même si le prix de l'immobilier a tendance à baisser un peu. Ça reste
quand même élevé.
Ça reste élevé et ça reste un investissement sur la durée. Vous investissez pas pour 3 ans. Mais c'est pas l'investisseur qui aujourd'hui bénéficie réellement d'une très bonne conjoncture. Après, le spéculatif, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va chercher de la rentabilité, qui va chercher de la création de valeur. Et aujourd'hui, clairement, dans les zones du Grand Paris, par exemple, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'endroits où on peut faire de la création de valeur. Donc pour l'investisseur spéculatif, c'est les zones du Grand Paris.
On aime bien donner des conseils, être concret aussi dans BFM Patrimoine. Est-ce que vous auriez quelques exemples justement de villes qui, selon vous, affichent aujourd'hui le profil le plus adapté à ce contexte actuel qu'on évoque depuis quelques minutes?
Oui, on peut citer... alors, au niveau de la ville, on peut citer une ville comme Champigny-sur-Marne, par exemple. C'est une ville qui a... Il n'y a pas de problème de location à Champigny-sur-Marne. C'est une ville qui est plutôt agréable, à côté de la Marne. On a des transports, mais qui ne desservent pas l'ensemble de la ville. En revanche, on a la ligne 15 du métro du Grand Paris qui va arriver à Champigny-sur-Marne. Ça va désenclaver un peu la ville. Donc là, il y a du potentiel sur Champigny-sur-Marne. Après, on peut prendre par exemple une ville comme Créteil. Alors Créteil, c'est déjà une ville qui bénéficie de transports. Il y a la ligne 8 du métro, plusieurs stations. En revanche, il y a deux zones dans Créteil qui ont un fort potentiel, c'est Créteil-les-Chats. Au nord de Créteil, il y a la ligne 15 également du Grand Paris qui va arriver. Il y a un écoquartier qui a été développé. Donc ce sont des zones qui vont vraiment bénéficier de revalorisation du prix de l'immobilier. Et puis par exemple, dans le sud de Créteil, on a le quartier de Montmélie, qui ne va pas forcément bénéficier du Grand Paris, mais il y a la ville est partie sur des grandes rénovations. C'est un quartier qui habituellement a beaucoup de logements sociaux, et la ville est en train de rééquilibrer le parc privé et le parc social. Ils sont en train de rénover les quartiers, mettre en place des médiathèques. Enfin, c'est vraiment un quartier qui est en train de prendre beaucoup de valeur, et le quartier a pris 25% sur les trois dernières années, par exemple. Ouais.
On sent quand même que à chaque fois il y a les transports transports collectifs comme colonne vertébrale de votre argumentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les questions de transition, avec les questions de carburant cher, le transport public ça reste une donnée de base de la règle l'emplacement.
Exactement. Ouais. Il faut être grosso modo à 10 minutes d'un transport ferré. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué pour louer. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas des bons investissements, mais ça reste plus compliqué. Après, il y a des villes, par exemple la ville d'Orléans, qui a une politique pour repositionner ses étudiants dans le centre-ville. Sur Orléans, la grande université est à la source, c'est plutôt dans le sud de la ville, et dans un quartier qui est très populaire. Et la ville est en train de remettre des universités au centre d'Orléans, justement, pour avoir un environnement plus favorable. Et du coup, ça booste réellement l'investissement locatif de cette ville.
Donc, politique publique et politique de transport sont les deux éléments à avoir en tête. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Mathieu Darras.
Merci à vous.
Pour Brick Me Up ce matin dans la vie IMO sur BFM Business. Dans un instant, on fera un détour technique sur les marchés grâce à nos traders. Et puis ensuite, on continue à vous donner un maximum de conseils boursiers ce matin. N'hésitez pas à vous référer aux replays aussi qui vous attendent sur le site et qui vous permettent de nous retrouver à votre convenance.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui sont à votre service pour lire la séance du jour de façon graphique, technique, afin que vous aussi vous disposiez de cette petite note d'analyse technique comme la plupart des opérateurs de marché. Jean-Louis Cussac et Stéphane Sauduteil sont nos traders du jour. Merci à tous les deux d'être présents au rendez-vous. Jean-Louis depuis Perceval Finance Conseil et Stéphane Sauduteil chez Technibourse. Stéphane, comment voyez-vous ce marché? Comment appréhendez-vous un petit peu ces hésitations? Bon, journée un peu particulière hier et aujourd'hui parce que c'est Thanksgiving, donc il y a moins de présence d'opérateurs américains en journée, mais bon, ça ne suffit pas à expliquer la mollesse du marché.
Oui, c'est vrai, un petit peu quand même, hein, puisque hier les États-Unis étaient fermés, aujourd'hui c'est une séance raccourcie, donc il y a moins d'opérateurs, c'est vrai qu'on est quand même Wall Street-o-dépendant. On teste les limites en fait, hein. Les limites c'est cette fameuse barre des 6007, on a fait des petites incartades au-dessus de ce niveau. Est-ce qu'il faut attacher de l'importance à ce débordement? Faut l'acter, mais est-ce qu'il sera confirmé demain soir en clôture hebdomadaire? C'est ça qui sera intéressant. Ce soir, pardon, en clôture hebdomadaire. Voilà, moi, j'ai pas tellement envie d'acheter ce marché sur les niveaux actuels. Alors, c'est vrai que on parie sur une décélération de la hausse des taux d'intérêt avec les PMI qui étaient un petit peu faibles mercredi, PMI des manufacturiers, PMI des services aux États-Unis. Donc, ça a rassuré un petit peu les opérateurs. Mais quand on analyse ça en profondeur, on se dit finalement un ralentissement, ça va quand même pénaliser les résultats des entreprises. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on ait un ralentissement de la hausse des taux? Je suis pas certain non plus. Et je pense qu'on a quand même vécu une hausse qui est très importante, hein, quasiment une vingtaine de pourcents aux États-Unis, un peu moins. Sur le CAC 40, on n'en est pas loin non plus. Ça a été assez linéaire. On peut dire que le rallye de fin d'année a commencé déjà depuis fin septembre. Est-ce qu'on va continuer sur ce tempo jusqu'à la trêve des confiseurs? Moi, c'est pas trop mon avis. Hein. J'ai l'impression qu'on est quand même capable de caler un petit peu, de redescendre un petit peu en arrière sans que ce soit vraiment dramatique. Mais on pourrait revoir un marché sur les 6003, 6004, je pense. Alors, le premier niveau d'alerte cohérent, je pense, ça serait la rupture de 6600 points qui briserait un petit peu cette belle tendance haussière que l'on a hein, depuis septembre. Donc on a une centaine de points de marge. Hein. On a encore un peu de tranquillité hein, avant qu'on ait quelque chose de plus d'un petit peu plus méchant. Mais voilà, on a aussi le pourcentage d'investisseurs aux États-Unis qui est toujours extrêmement haut. Ça c'est un facteur, je pense, limitant pour un petit peu pour Wall Street. On a plus de 70% d'investisseurs haussiers. Donc souvent, on a tendance à en prendre le contre-pied à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que je définis le sujet suivant en disant que depuis plusieurs semaines sur votre antenne, en disant que quand le rallye de fin d'année commence un peu trop tôt, on a souvent un petit coup de moins bien autour de début décembre, fin novembre, début décembre. Donc je me méfie un petit peu de ça. Voilà, donc sur les niveaux actuels, moi j'achète pas, je serais même un petit peu vendeur à découvert hein, autour des 6710, 720, avec un stock de protection que je mettrais quand même vers 6735 points. On sait jamais, hein, on peut toujours avoir effectivement une poursuite de la hausse, surtout si les taux d'intérêt continuent à se détendre, mais ils remontent un petit peu, ce qui explique un petit peu le coup de moins bien là depuis quelques minutes. Voilà, et puis pour racheter, peut-être vers 6680, je m'attends pas à des grands mouvements aujourd'hui, hein, avec une demi-séance à Wall Street, on va quand même ronronner sur des niveaux qui sont très élevés, hein, ça c'est une certitude, mais je doute quand même d'une vraie poursuite de la hausse dans les prochains jours, voire les deux prochaines semaines.
Voilà la vision proposée par Stéphane Sauduteil. Jean-Louis Cussac, même chose, comment vous percevez un petit peu ce marché?
Toujours à jouer à l'achat. La tendance haussière n'est pas infirmée sur le plan technique. Donc, on continue, même si on n'a pas envie. Ça, c'est sûr que il est difficile d'appuyer sur le bouton achat quand on est à 6700 et quelques. Hier matin, je vous disais, vers 6690-80, bon, ben, on l'a fait, on a rebondi. Pareil sur l'euro-dollar, 1,0380, on l'a fait, 90, on l'a fait, on a rebondi. Voilà, et ce matin, ben, je suis replacé à l'achat, donc dans cette zone, vers jusqu'à 6680, même un peu plus bas. Hein, si c'est pas parce qu'on ira à 6650 que les probabilités de rebondir en intraday ne seraient fortement entamées. Je pense pas. Donc les marchés sont creux. Tout à l'heure, j'avais passé un ordre à 38 à l'achat sur le SPI. On a coté 38. J'en ai même pas fait un seul. Donc évidemment, on manque d'intérêt. On est à 280 millions. D'échanger sur le CAC 40, c'est très faible. 15 de vol implicite, elle a bien baissé. Et puis, voilà, tout simplement, les investisseurs ont eu la réponse. Ils ont été confortés, en fait, dans leurs anticipations, avec comme idée qu'on aura un ralentissement à venir du rythme des hausses de taux directeurs. Et évidemment, on a eu le Bund qui a fortement progressé hier, les taux souverains ont fortement baissé. Pour l'instant, si vous voulez, tout ça a été déjà très anticipé par les marchés. Voilà. Donc maintenant, quel pourrait être le catalyseur? Bon, toujours pareil, le cessez-le-feu en Ukraine, pourquoi pas, évidemment, ça serait une excellente nouvelle. De là à penser que le relais derrière serait extrêmement puissant, c'est difficile maintenant, après cette hausse quand même assez fantastique. L'idée, ça sera d'essayer de trouver un niveau, on va dire, de retournement à la baisse. On peut imaginer peut-être autour de 6003. Le niveau aussi de baisse, de retracement fort, qui pourrait permettre d'acheter dans des conditions un petit peu plus favorables, avec un potentiel de rebond intéressant, ça serait peut-être la zone des 6450. Donc jusqu'à 6450, on ne remet pas en cause la tendance de fond long terme, donc ça serait une zone d'achat. Pour l'instant, comme on fait un peu du surplace autour des 6007, on ne peut pas dire qu'il y ait des opportunités, et ni d'opportunités de prix, ni d'opportunités de situation nouvelle. Donc, on est en roue libre. Si les choses restent comme ça, c'est-à-dire le marché ne trouve pas de catalyseur à rebaisser ou à remonter, on pourrait, parce que c'est la période qu'il veut aussi, rester en roue libre une bonne partie du mois de décembre, à toute chose égale par ailleurs.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, et Stéphane Sauduté, qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30 pour le suivi de cette séance. À tout à l'heure, Stéphane. Le CAC 40, lui, pour le moment, toujours très hésitant, hein, moins 0,1%, 6697 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
Où va la démographie française ? L'INSEE répond et constate par exemple que dans certaines régions, la population baisse. Lesquelles ?
Eh ben, on a un pic qui a été atteint en 2015 dans 5 régions de France. Donc ça veut dire qu'elles sont déjà en déclin. Il s'agit de la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, la Normandie, les Hauts-de-France. Après, l'observation de l'INSEE évidemment est plus large. Ça concerne tout le pays dans un horizon 50 ans. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? On va continuer à avoir une population en progression jusqu'en 2044. Et à partir de 2044, c'est le repli. C'est le repli et on tombe à 68 millions en 2070. Il y a des régions qui vont rester dynamiques, l'Occitanie par exemple, les Pays de la Loire, l'Île-de-France. Mais l'INSEE dit qu'en face, on aura 62 départements dans lesquels plus de 30% de la population aura plus de 65 ans. Et même, ce taux grimpera à 40% dans 5 d'entre eux. Donc dans 5 départements, Charente-Maritime, Gers, Lot, Dordogne, la Creuse, on aura des 65 ans et plus qui représenteront 40% de la population.
Alors sortons un petit peu du région par région pour tout de même voir que l'INSEE fait le constat d'un pays qui vieillit.
Totalement. Un pays qui vieillit. Vous savez, il y a souvent dans les esprits des chiffres qui s'impriment et on a l'impression qu'ils sont immuables. À une époque, on disait 75% des jeunes veulent être fonctionnaires. Ça a duré 25 ans, cette croyance. Et là, si vous demandez aux gens quelle est la fécondité française, il y a ce 2,1 enfants par femme qui s'est inscrit dans les esprits pendant des années. La réalité, c'est pas celle-là. On est à peine à 1,8. Et l'INSEE nous dit, si on tombe à 1,6 enfants par femme, ce qui n'est pas du tout impossible, à ce moment-là, c'est l'ensemble des départements qui seront sur le déclin.
Qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir ?
Eh bien, ça nous dit que c'est une économie qui vieillit, donc une économie qui automatiquement va s'atrophier, parce que les moteurs ne sont plus alimentés. Il faut du carburant pour faire tourner des moteurs. Vous avez deux carburants essentiels pour une économie, c'est le capital financier, ça va être l'actionnaire avec ses dividendes, et puis les investissements, et puis le capital humain, celui qui produit et celui qui consomme. Donc la natalité, c'est le premier facteur de croissance économique, et surtout, c'est le seul moyen de payer notre modèle social. D'accord, on a tout socialisé. Mais moralité, tout repose sur la natalité, puisque les biens portants payent pour les malades, les actifs surtout payent pour les retraités, et ceux qui ont un travail payent pour ceux qui n'en ont pas. Le jour où il n'y a plus d'enfants, tout ça c'est fini, ça s'arrête. Alors heureusement, on peut se rassurer en se disant que on n'est pas l'exemple de la société vieillissante la plus aboutie, c'est le Japon. Au Japon, on vend plus de couches-culottes pour adultes que pour enfants. Quand on en est là, c'est quand même très inquiétant. Mais c'est intéressant après de regarder le modèle économique finalement des économies vieillissantes. Le Japon, le Canada, la Suisse, l'Allemagne. C'est je vends ma dette publique pas cher. Avec ça, finalement, je fais des placements. Donc j'épargne. Et ce sont les rendements de ces placements qui vont payer mes retraités. En France, on fait exactement l'inverse. On n'a pas d'épargne en capital. Et donc on vend en fait des actifs. Nous, on n'épargne pas, on vend des actifs. On vend des entreprises au reste du monde et on ne paye pas les retraites. Il y a eu le rapport, souvenez-vous, Jean Tirole et Olivier Blanchard qui a été rendu public mi-2021. Ils ciblaient 3 axes essentiels et stratégiques pour la France. C'était le climat, les inégalités et la démographie. Et dans le chapitre de la démographie, il mettait clairement en avant que l'un des éléments clés, c'était la réforme des retraites. Et si on remonte à un rapport du Sénat en décembre 1999 qui évoquait déjà les conséquences économiques du vieillissement, vous prenez la conclusion du chapitre 1, il préconisait déjà le recul de l'âge de départ à la retraite.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas, le marché assez hésitant. On regarde tout de suite le détail de la séance en cours.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Un marché qui hésite encore une fois un petit peu sur la conduite à tenir. Alors c'est vrai que la semaine est un peu particulière avec ces fêtes de Thanksgiving qui font que les Américains sont en partie absents les après-midi et du coup forcément ça n'aide pas à dessiner une tendance assez claire. Mais pour le moment effectivement on hésite, on est repassé juste en dessous des 6700 points reconquis hier, moins 0,14, 6697 points. La tendance est également très hésitante du côté de l'Eurostoxx 50, moins 0,06% pour l'indice des grandes valeurs de la zone euro. Il y aura quand même une demi-séance cet après-midi à New York, mais ce sera forcément assez modéré. Du côté des arbitrages sur le CAC 40, à la hausse du Total Energy, du Vivendi et du Crédit Agricole, à la baisse de l'Eurofin scientifique, du Worldline et de l'ENGIE. Et puis il y a un dossier qui se distingue assez nettement ce matin sur les marchés parisiens. Eh bien, c'est OVH qui est en tête du SRD, plus 4,48% pour le titre d'OVH Group, titre qui se négocie à 14,74€. Du côté des devises, l'eurodoll est en ce moment à 1,0418.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille François Monnier pour la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour Cédric.
Et Eric Blen pour Swiss Life Gestion Privée. Bonjour Eric.
Bonjour Cédric, bonjour à tous.
Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Regardons les marchés pour essayer de mieux comprendre la tendance et puis ces grands thèmes qui parfois font bouger les grandes masses de capitaux. Alors, je le disais François, il y a pas mal d'hésitations, notamment sur les attaques de séances ces derniers jours, mais il y a quand même aussi pas mal d'optimisme, alors qu'il y a quand même beaucoup de questions, et peut-être en tout premier lieu la Chine. Il y a semblé avoir eu quelques petites mesurettes dans l'immobilier, un peu sur le sanitaire, etc. Et le marché tout de suite a tendance à un peu s'emballer. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
C'est vrai que je confirme ce que vous dites, c'est que le marché s'emballe sur des bonnes nouvelles et finalement ignore les mauvaises. Il y a une vraie asymétrie d'information au regard de la Chine lorsqu'on voit que, bien sûr, tout de suite les valeurs du luxe et l'ensemble des indices ont monté parce que les Chinois ont réduit les contraintes sanitaires, notamment la durée de la quarantaine, mais en même temps, ils confinent Pékin, notamment ils ont fermé là en ce moment les écoles et les restaurants parce qu'il y a des reprises de contamination, mais le marché ignore ces confinements et se dit que finalement, ce qui est important, c'est les signaux positifs et peut-être que la politique zéro Covid va évoluer dans les semaines qui viennent. Donc on a un marché qui est asymétrique. Alors ça veut peut-être dire aussi qu'ils avaient intégré trop de mauvaises nouvelles dans les cours, mais on voit qu'il y a un changement de perception du marché, et ce changement de perception, en fait, quand même, il interpelle. Il interpelle au niveau des indices, il interpelle même, par exemple, si on reprend l'exemple de ce qui se passe en Chine, parce qu'il y a des confinements, et puis il y a aussi une grande entreprise qui s'appelle Foxconn, qui confiné ses salariés, ses employés depuis octobre.
Apple City, on appelle ça.
Apple City, là. Justement, c'est Apple City. Et aucun impact sur le cours d'Apple. Ça peut interpeller, parce que là aussi, asymétrie d'information. Il y a quelques jours, on échangeait ensemble, Cédric, sur Téléperformance, qui disait... Est-ce que le comportement, est-ce que le traitement des collaborateurs en Colombie est correct ? Et ça a fait plonger le titre de 40%.
Quand on voit des quasi-émeutes à Apple City.
Il y a des émeutes, il y a des blessés, il y a des grillages pour pas que les employés puissent sortir du site d'Apple, enfin du sous-traitant qui est Foxconn, mais pour fabriquer l'iPhone 14 Pro. Eh bien là, aucun impact sur le cours d'Apple. Donc là aussi, ça peut interpeller, ça interpelle à plusieurs niveaux. La première, c'est est-ce que Apple, c'est une entreprise qui est trop grande, trop grosse pour être attaqué, alors que Téléperformance, c'est qu'une entreprise du CAC 40. Ça peut être une piste. La deuxième piste, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas d'investisseurs sur la thématique ESG, ISR, aux États-Unis, et ils sont surtout sur les valeurs européennes. C'est possible, parce qu'on sait que sur la thématique ESG, on est en avance, mais ça interpelle quand même qu'il n'y ait pas de réaction sur le titre. Et après, la troisième, c'est est-ce que les agences de notation sont plutôt anglo-saxonnes, et donc... Elle protège peut-être les entreprises anglo-saxonnes et pas les entreprises européennes. Là aussi, c'est une interrogation. Enfin, on n'a pas les réponses, mais on est sur un marché qui est assez étrange et on le voit avec le comportement d'Apple, on le voit avec le comportement des indices. Il y a une asymétrie. Il y a une asymétrie et à un moment donné, ça finira par se corriger.
Comment vous voyez les choses ? Parce que c'est vrai que la performance, enfin l'optimisme des investisseurs, il est quand même mesurable. On prend le CAC. Depuis la rentrée, c'est un mois et demi, deux mois, enfin un peu entre les deux. Il a pris 1000 points.
Oui.
Il est là, l'optimisme, quand même, non?
Alors, pour faire le lien avec la discussion précédente et ce que vient de dire François, j'ai un point de vue là-dessus, comme souvent.
Ça tombe bien, c'est pour ça, j'ai envie de dire.
Et on va le connaître.
Ouais. Et je crois qu'Éric le partage.
Non, je pense que les investisseurs étrangers ont décampé de la Chine. Ils ont juste décampé, ils sont partis. Et inversement, en Chine, le gouvernement incite les Chinois à acheter leur marché. Donc ça explique pourquoi le marché ne baisse plus, mais il a quand même fortement baissé. Début octobre, au moment de la reprise du marché européen et américain, là où nous on a monté de 18% et le Dow Jones de 17%, le CSI 300, qui est l'indicateur phare chinois, il baisse de 1,84, il baisse de 2, il y a 20% d'écart. Et à ce moment-là, le marché européen remonte, sans trop de raisons d'ailleurs à ce moment-là, hein, parce que les vendeurs sont en Chine, et c'est les Américains qui font ça, hein, et l'après-midi, ils nous achètent l'Europe. Et ça, c'est le début du rallye boursier, en fait, en Europe. Donc, je pense qu'ils ont juste décampé. Donc, ce qui se passe en Chine aujourd'hui, ça intéresse les Chinois et les autres, ils sont plus là. Après, le marché européen a continué de progresser sur les nouvelles aux États-Unis. On a vu, donc, ces chiffres d'inflation qui se sont calmés avec pendant 2 mois de suite, avec, donc, une discussion sur le taux pivot. Et, donc, on a vu, là, pour le coup, le marché continuer de monter de façon moins étonnante, mais quand même dans l'ampleur, de façon surprenante, hein, avec des rachats de ventes. C'était pas vraiment des acheteurs, en fait, c'est des rachats de vendeurs, ouais, à découvert. Et puis, on avait des gens qui étaient quand même très négatifs sur les marchés, la psychologie était négative, donc il y a des rachats et des mouvements d'allocation d'actifs. Après, on a quand même eu des résultats dans les entreprises qui ont été bons, c'est quand même vrai en Europe, et plus en Europe qu'aux États-Unis. On a eu en Europe comme une très bonne nouvelle, parce qu'on est touché par l'inflation, avant tout par l'énergie. Les prix du gaz ont baissé, les prix du pétrole se sont stabilisés, voire légèrement baissés. Mmh. Et puis, on a eu ces fameuses rumeurs de fin de Covid en Chine, avec des mesures qui étaient pour modifier une politique qui était trop stricte et donc plus accommodante, avec quelques mesurettes qui servent à rien. Et puis, des promoteurs immobiliers chinois qui étaient un peu plus aidés par les Chinois. Tout ça explique et donc le luxe qui a remonté, après avoir fait une montée des banques, après avoir fait monter l'énergie. Donc, finalement, le CAC 40 fait la course en tête de façon exceptionnelle, hein, cette année. Elle est championne du monde déjà.
Bon, il y a effectivement des raisons qui peuvent expliquer cette espèce de rallye. Alors, est-ce qu'il anticipait celui de fin d'année, ou est-ce qu'il a eu lieu avant la fin de l'année? Mais il y a d'autres phénomènes, vous, qui vous inquiètent aujourd'hui, ou pas, on pourrait s'appuyer
Les raisons, bien sûr, on est inquiet d'un risque de récession. Et là aussi, on a des éléments qui montrent que finalement, la récession, elle sera peut-être probablement pas méchante. Et en tout cas, on a encore eu cette semaine l'OCDE qui dit pas de récession mondiale l'année prochaine, mais net ralentissement. Donc le fait que la récession ne soit pas là, et aux États-Unis, on a eu beaucoup d'études qui dit que finalement, s'il y a une récession aux États-Unis, c'est plutôt fin 2023, mm-hmm, début 2024. D'accord. Donc le risque de récession aux États-Unis est repoussé. Le risque de récession mondiale est écarté et on aura peut-être une pseudo-récession cet hiver en Europe. Et ça, ça accommode les investisseurs qui disent finalement cette récession-là, elle ne va pas faire de mal, elle va réduire un petit peu l'inflation. Et donc, on est vraiment parti sur le scénario rose où les mauvaises nouvelles vont permettre de faire émerger une tendance haussière. Et ça, c'est avec ce formidable rebond du marché, on peut se dire, déjà statistiquement, quand on voit une forte hausse comme ça veut dire qu'on sort d'un bear market. Là, on ne peut plus dire on est dans un marché baissier. Alors, est-ce qu'on rentre dans un bull market? C'est la grande question. C'est un peu aller vite en besogne que de basculer. Mais c'est vrai que le marché est toujours binaire. Hein. Donc, on était noir, maintenant on devient rose. Mais voilà, il faudrait que ça se calme un petit peu. Je trouve que le rebond est peut-être un peu fragile.
Mais si on s'appuie sur ces chiffres-là, si on se dit qu'effectivement on pourrait peut-être échapper à la récession, on a vu certaines enquêtes cette semaine nous dire que finalement, et on le voit encore avec la confiance des ménages ce matin, c'est peut-être pas si grave encore, ça veut dire que les banques centrales vont peut-être avoir réussi leur coup et qu'on va vraiment assister au pivot de la Fed. Enfin, vous l'évoquiez il y a un instant, ce pivot.
Alors, ce pivot, enfin, d'abord, de quoi parle-t-on dans cette histoire de taux pivot, quoi? Parce que on parle du pivot, oui. Alors, je crois qu'il y a plusieurs phases, en fait, dans ce taux pivot. On vient de le comprendre. Il y a une politique monétaire américaine et européenne qui devient plus restrictive, voire très restrictive pour les États-Unis. Et donc, les hausses de taux ont été à coup de 0,75, plusieurs fois de suite. Et donc, la première phase du pivot, c'est un ralentissement du rythme de la hausse des taux, avec des hausses qui ne seront plus de 0,75 points de base, mais de 0,50 ou de 0,25. Donc ça, c'est la première phase. La seconde phase du taux pivot, c'est d'avoir finalement l'arrêt de la hausse des taux, avec un maintien des taux à un niveau élevé, dit équilibré, et on attend que l'inflation rebaisse et se stabilise. Et puis le troisième phase, le dernier de cette histoire de taux pivot, c'est un cycle de baisse des taux, alors que l'inflation est revenue à 2%, ou qu'on est tombé en récession, et dans ces cas-là, il faut aider à nouveau l'économie à redémarrer. Donc il y a trois phases. Et si on décrypte un petit peu ce que vient nous dire la Banque Centrale Américaine, donc dans son dernier compte-rendu, c'est que nous sommes entrés dans la première phase du taux pivot, c'est-à-dire que les hausses des taux continuent, ça ne s'arrête pas, mais à un rythme moins élevé.
Oui.
Et donc les effets immédiats que l'on a pu voir, le dollar qui rebaisse par rapport à l'euro, l'euro remonte un petit peu, et puis les taux longs refluent. On a vu du 4,30 aux États-Unis sur le taux 10 ans, on est à 3,70, en France on a vu du 2,30, on est revenu, on a vu 3,09, pardon, 3,10, on est revenu à 2,30, donc les taux longs rebaissent. Et ça a aidé le marché, bien sûr, hein, c'est très clair. Est-ce que ça veut dire qu'on va être en croissance l'année prochaine? Je crois que non. Le sujet, c'est est-ce qu'on est à zéro de croissance ou est-ce qu'on va en récession? Et c'est bien, ouais. C'est un sujet.
Justement, ce marché, ouais. Il a déjà repris 1000 points. On avait commencé à travailler un peu là-dessus la semaine dernière. Est-ce qu'il peut encore pousser? Parce que là, finalement, 6007 hier quand même, et peut-être encore ce matin.
Il va falloir le nourrir pour qu'il aille...
Donc, peut y avoir un rallye de fin d'année?
Il faudrait le nourrir. Là, techniquement, on était dans une zone où les actions étaient survendues. Là, maintenant, il n'y a plus d'actions qui sont survendues. Il y a même parfois, sur certains titres, un peu de surachat. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver des éléments exogènes qui viendraient alimenter la machine à la hausse du marché. Ça peut-être venir d'Ukraine. Hein. On a vu déjà qu'au G20, il y a eu quand même un changement de discours des pays dits neutres qui font un peu plus pression sur la Russie pour aller vers un scénario de paix. Alors, est-ce que ce scénario sera rapide ou pas? C'est difficile de le prévoir. Pour l'instant, on ne voit rien venir, mais ça peut être un élément. On aura peut-être des nouvelles rassurantes au niveau de l'inflation. On a vu déjà un petit fléchissement aux États-Unis. Ça demande confirmation. Si on avait une confirmation qu'il y avait un fléchissement d'inflation, tout de suite, le marché va se dire, ça y est, le fameux taux pivot, il va arriver plus vite que prévu. Sachant ça, c'est une certitude. Les Américains ont fait l'essentiel du boulot. Ils sont passés des taux directeurs de 1% au début d'année à 4% aujourd'hui. Le consensus dit qu'on ira probablement à 5 ou 5,25. Donc, en gros, on a rajouté 3 points. Il reste peut-être encore 1 point à faire. Donc, on a fait les 3 quarts du boulot. Donc ça rassure énormément le marché. Et surtout qu'on écarte le risque de récession. Mais maintenant, il faudrait avoir des petites lueurs d'espoir. Ça peut être sanitaire en Chine, ça peut être géopolitique. En tout cas, au niveau des entreprises, il n'y aura pas de grande communication, puisque le grand rendez-vous, ça va être février, lors des publications des résultats annuels. Ouais. Donc, au niveau des entreprises, il n'y a rien à attendre. C'est au niveau macro, on va surveiller l'inflation, la géopolitique et le sanitaire.
Bon, alors, en attendant tous ces signaux, est-ce qu'on arrive à se projeter un petit peu et dire comment se positionner? Enfin, voilà. Quelles sont vos idées pour le début de l'année qui vient?
Alors, début 2023, c'est vrai que c'est un gros sujet parce que...
On rappelle, la bourse, normalement, on anticipe.
C'est ça. Et puis, on est quand même relativement haut. Donc, pas facile quand même. Hein. Le début d'année pourrait finalement... encore bien commencé. C'est un mois de janvier qui serait peut-être plutôt bon. Pourquoi? Parce qu'on va assister à une désinflation assez forte, à mon avis. Le prix de l'énergie a baissé quand même sensiblement sur le gaz et sur le pétrole, il est en train de baisser. On a des effets de base qui sont très élevés, donc ça va être plus facile à battre, bien plus facile. Et puis, on a moins de goulot d'étranglement, en fait, qui nous vient de la Chine, notamment, quand même, par rapport à l'année dernière. Donc, on va avoir une désinflation ça va aider le marché en début d'année. Après, je pense que l'année 2023 va rester très complexe et très incertaine. Incertaine sur le plan géopolitique, sur le plan économique. Je pense qu'on gardera de l'inflation à un niveau élevé, c'est-à-dire plus élevé que les fameux 2%.
Malgré les effets de base.
Ouais, malgré les effets de base. Oui, parce que on a quand même changé d'environnement. Il y a une rupture avec cette politique monétaire. Donc on a quand même un sujet de prix de l'énergie, même s'il rebaisse, qui va rester élevé. On a le problème de la démondialisation qui fait que les coûts sont supérieurs. On a la lutte contre le réchauffement climatique qui coûte de l'argent. La traçabilité qui coûte de l'argent. La volonté de souveraineté de beaucoup d'États aujourd'hui qui coûte de l'argent. La montée des risques politiques d'une manière générale, et puis on a un sujet quand même social avec le coût du travail, et puis quel environnement on a pour les démocraties en Occident. Donc tout ça fait que on peut pas être trop optimiste sur 2023, mais on pourrait peut-être bien commencer l'année.
Mais c'est vrai que ce qu'on va retenir de cette année 2022, c'est la capacité des entreprises à passer des hausses de prix. On a vu du pricing power partout. Alors quand on a commencé l'année 2022, on s'est dit le pricing power, bon, on en a un petit peu dans le luxe et dans certaines valeurs ou certains secteurs où il y a vraiment des goulots d'étranglement. Et là, on a vu du pricing power partout, même chez les cycliques. On a vu Saint-Gobain qui a couvert cette année l'ensemble de ses coûts par des hausses de prix. On l'a vu aussi dans l'automobile, pas forcément dans l'automobile de luxe. On le voit chez Stellantis, on le voit chez beaucoup d'acteurs. Donc c'est l'année où tous les acteurs ont fait un énorme boulot pour passer des hausses de prix. Mais 2023, le vrai sujet, ça va être les volumes. Donc, très bien, vous avez augmenté les prix, mais maintenant, est-ce que les volumes tiennent? Ouais. Et ça, ça va être la grande interrogation.
François Monnier pour investir, Eric Blaine et Swiss Life Gestion Privée. On se retrouve tout à l'heure, tous les trois, pour répondre aux questions des auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Dans un instant, détour par les marchés. C'est Antoine Larigauderie qui suit tout ça pour nous. Et n'oubliez pas non plus de vous référer au replay. Ils vous attendent sur le site ou sur vos plateformes préférées.